Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Franck Ladouce, le cofondateur de What Matters, les essentiels du quotidien rechargeable et éco-responsable. Est-ce que c'est une belle baseline ou tu vas me piper un peu là?
Bonjour Alice. Déjà, c'est Salut. Une belle introduction. merci de m'accueillir. Ouais. C'est ça, What Matters, c'est une nouvelle façon de consommer les produits de soins, d'hygiène et de la maison en mode effectivement rechargeable, bio.
Bio, tiens, ça je ne l'avais pas.
Voilà, bio. Et en fait, l'objectif, c'était de réconcilier finalement l'efficacité, le plaisir, l'écologie, l'esthétique et effectivement le côté bon pour la peau et la santé.
Mais c'était surtout aussi rendre ça accessible. Moi, ce que j'ai aimé dans What Matters, justement, et c'est pour ça que tu es là, parce que dans l'empreinte, j'essaye de varier les profils, les secteurs et la cosmétique, on l'a quand même pas mal eu. Mais je trouve... sans te survendre et j'essaie de rester hyper objectif, que en fait, tu arrives à accompagner les plus réfractaires à l'utilisation de produits écologiques en rendant ça beau et en plus facile à utiliser. Tout étant... Il ne faut pas se tromper entre le dentifrice et le savon. Ça peut être du grand moi, tu vois. Mais tu vois, c'est vraiment...
Non, mais c'est un point important. On fait le travail parce qu'on est tout jeune. Hein. On s'est lancé avec Charlotte Caton, mon associé, il y a 16 mois. Et on travaille justement un peu sur notre mission. Et c'est vrai que ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'en fait, notre mission, c'est de faire changer les comportements, mais par le plaisir et sans culpabilité. Je crois que c'est finalement le motto dans lequel on se retrouve le plus sur cette marque-là. C'est de se dire aujourd'hui, il y a beaucoup de communication autour du mieux consommer, mais souvent qui prend des axes un peu de culpabilisation des consommateurs. Or, le consommateur, s'il consomme ça depuis 20 ans, c'est qu'il n'a pas eu forcément d'autres choix par ce qu'on lui proposait, par l'offre qui existait. Donc nous, aujourd'hui, notre sujet, c'est comment on fait changer les comportements, comment on réduit la consommation de plastique, mais en rentrant par le plaisir, par l'efficacité, par le côté esthétique. On a aussi travaillé un produit qu'en tout cas, nous, on trouve plutôt joli et esthétique.
Je confirme. Allez faire un petit tour.
Mais pour nous, voilà, c'est important. Si je prends un peu l'exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui peuvent rentrer. Ça, c'est des axes de communication et il n'y en a pas un meilleur que l'autre. En tout cas, nous, c'est notre positionnement. Il y a pas mal de marques qui rentrent parfois par la réduction de plastique. Attention, voilà les plages avec plein de plastique. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on a besoin de parler au bon cerveau et que les gens savent, en tout cas, sont de plus en plus conscients qu'il y a un problème pour la planète, pour l'écologie, pour demain. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. En tout cas, ça devient compliqué de l'ignorer. Et plutôt que de rabâcher ce message-là, nous, on essaye de trouver une solution en disant, viens chez nous. Tu sais pas comment changer, tu as envie de changer un petit peu, mais c'est complexe, il y a des frictions, c'est pas toujours simple, ça prend du temps de trouver les bons produits. Donc, viens chez nous, on va t'accompagner. Et puis, nous, notre enjeu, c'est de s'adresser au plus grand nombre qui a envie de changer, qui sait pas trop comment, et de lui donner, en tout cas, entre les mains, une solution facile, simple, esthétique, et évidemment, avec des formules bio et safe, entre guillemets, pour toute la famille. Donc, voilà, ça, c'est un peu notre positionnement et notre motto, voilà, de pas choisir entre c'est bio, c'est écologique, c'est beau, c'est esthétique. On a essayé de réunir tout ça. Voilà, c'était l'enjeu de What Matters.
Et justement, cet enjeu, est-ce que c'était un enjeu aussi personnel? Est-ce que toi-même, tu t'es retrouvé? En fait, quand tu as monté la boîte, est-ce que c'est une question à laquelle c'est une question que tu te posais, tu te disais, tiens, j'ai envie d'être écolo, mais c'est compliqué?
On a eu des expériences entrepreneuriales avant What Matters, hein, y compris avec Charlotte. Et puis, quand on s'est retrouvé sur ce projet-là à réfléchir, on avait envie d'entreprendre ensemble. Alors, on est un peu plus âgé, on va dire, puisque effectivement, on s'est dit, on a envie d'avoir un projet qui a du sens. Pour être complètement transparent, moi-même là-dessus, je pense que je me suis éduqué, auto-éduqué avec la marque en
comme
la faisant
beaucoup.
Grandir.
Mais comme beaucoup.
Voilà. Et puis toujours avec cette notion d'avoir un impact le plus fort possible. Et souvent, ce qu'on s'est dit, et ça aussi, c'est alors là d'un côté plus, on va dire modèle économique. On pense que on peut avoir de l'impact, on peut avoir une marque engagée et pour autant gagner de l'argent, puisqu'en fait, plus vous, on va dire, vous aurez une marque qui se développe, qui génère du chiffre d'affaires, qui a des clients, finalement, plus votre impact sera fort. C'est super d'avoir un produit extrêmement ambitieux en termes d'impact écologique, mais si vous restez sur 500 000 clients, bah finalement, votre impact à la fin, il restera, voilà, et la viabilité économique de l'entreprise est pas toujours garantie. Donc voilà, nous, on réconcilie finalement une partie de marketing, parce qu'encore une fois, on a besoin de marketing pour faire de l'écologie, pour apprendre, pour expliquer. Le marketing ne veut pas dire que c'est tout mauvais. Alors, on a été mal éduqués ces dernières années par du marketing un peu de façade, effectivement, et parfois un peu de greenwashing. Donc, on essaie, nous, de toujours être transparent. On n'est pas parfait. On est une marque en progression. On apprend avec nos clients. Mais je crois qu'en tout cas, d'un point de vue, en tout cas, modèle économique et entrepreneur, le rôle des entrepreneurs d'aujourd'hui, si on veut avoir de l'impact, c'est finalement de trouver des modèles économiques vertueux en traitant l'écologie pour avoir l'impact le plus fort possible.
Et quel produit t'as lancé en premier ?
Alors
plusieurs,
ça,
non ?
Ouais, notre conviction forte, qui n'était pas du tout finalement les recommandations ou finalement les discussions qu'on a pu avoir avec pas mal de profils et de gens qui étaient plutôt de dire lancer un monoproduit puis vous élargirez la gamme, ce qui est un petit peu le modèle des DNVB aujourd'hui. Alors nous, on avait la chance, on va dire, d'avoir la capacité financière de gérer un stock assez grand et une gamme assez large, mais on s'est dit qu'une des frictions sur ce type d'offre, c'était finalement pour la personne de pas venir sur un site, parce qu'on s'est lancé effectivement uniquement en digital, on attaque le retail depuis quelques semaines. Mais l'idée, c'était pas de venir sur un site pour acheter son dentifrice, et puis sur un site B pour acheter sa lessive, et puis sur un site C pour acheter son déodorant. La friction était trop grande pour quelqu'un qui travaille, qui potentiellement a des enfants, voilà. Donc
oui, et puis en plus, comme c'est des types de produits, on va dire un peu mass market, en fait, c'est quand même des produits...
On
parlait de... une lessive, tu te dis pas, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller m'acheter de la lessive, je vais aller... Fin...
Ouais, on a essayé... ce que tu dis est un peu vrai, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur les produits, on va dire, du quotidien, qu'on utilise le plus souvent. C'était un peu notre choix au début des produits, c'est quels sont les produits qui ont le plus de récurrence dans la maison, sur lesquels, finalement... qui touche le plus ma peau, ou en tout cas avec lequel je suis le plus en contact, moi, ma famille, mes enfants, ma femme. Donc c'était ça un peu le début de la gamme. Donc on a lancé entre 15 et 16 produits avec directement effectivement une gamme hygiène, avec à la fois du dentifrice pour les enfants, du dentifrice pour les adultes, du shampoing, du déodorant, et puis une gamme soins avec un Lécor, des maquillants, et puis une gamme maison aussi. Parce que en fait, encore une fois, toujours dans cette logique de se dire, il faut rentabiliser l'effort de je viens chercher des produits, donc finalement j'ai envie d'avoir mon fond de placard de bonne qualité. Encore une fois, on insiste avec des jolis flacons qui finalement rendent votre intérieur un peu plus chaleureux, voilà. Et puis qui a été effectivement renforcé par malheureusement les dernières la période un peu compliquée qu'on vit depuis 2 ans, où je pense que les gens ont eu aussi une envie de remettre un peu de cocooning dans leur maison, et que ce soit dans leur salle de bain, leur chambre, y compris leur cuisine, est-ce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une petite mayonnaise par rapport au lancement qui a fait qu'effectivement, on a eu plutôt un bon démarrage, et puis qu'on a des clients fidèles. Ça, c'est ce dont on est le plus fier. Voilà, et puis
la fidélisation, tu l'as avec la recharge, puisque tes produits sont rechargeables. En fait,
exactement. Donc aujourd'hui, tous les produits qu'on lance sont rechargeables. Le principe, c'est que vous achetez un premier flacon en verre renforcé, donc un verre qui est antidérapant et qui est, en tout cas, qui s'il se casse, s'il se brise, un peu comme une couche de pare-brise sécurité, il se casse à l'intérieur, donc ce qui permet de remettre le verre dans la salle de bain. Donc ça, c'est votre premier achat. Et puis ensuite, vous achetez des éco-recharges pour remplir vos flacons avec différentes tailles, des petites pour les petits foyers. Et puis effectivement, on a des éco-recharges d'un litre pour le shampoing, le gel douche, pour les familles nombreuses qui viennent recharger régulièrement leurs produits.
Là, tu me parles de verre, mais tu as réussi à calculer l'impact de tes packagings. J'ai vu qu'il y avait quand même un peu encore de plastique pour la petite pipette. pipette, enfin, c'est comment on appelle le petit bouchon, le petit.
Exactement. Alors, on a fait. Alors, t'as le sujet des pompes en plastique sur les flacons. On va dire que.
Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à la pompe en plastique.
Aujourd'hui, on a eu des discussions avec ces partenaires qui font des pompes. Il faut savoir que le marché de la pompe, entre guillemets.
Le marché de la pompe.
Si je peux dire ça, est un marché qui est.
Je me lance dans le marché de la pompe.
Qui est sur des volumes énormes, qui a été complètement saturé en plus par le Covid par rapport au gel hydroalcoolique.
Bien sûr.
Mais le sujet du plastique, il n'est pas tant qu'il y ait du plastique, si c'est du plastique qui reste. Hein, le vrai sujet du plastique, c'est le plastique jetable. Enfin, notre vrai enjeu de demain, si on peut, on va dire, focaliser sur les priorités. À partir du moment où vous avez un flacon en verre et une pompe que vous allez garder 1, 2, 3 ans par rapport aux 15 flacons que vous auriez achetés. Alors, évidemment, si demain on arrive à l'enlever complètement, c'est encore mieux. Mais je pense que, en tout cas, c'est pas le. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative. Et si demain, on y travaille, on y travaille pour demain.
Ensuite, en fait, il faudrait que les grosses entreprises, on en parlait un peu, investissent massivement en R&D pour trouver une alternative à ces pompes.
Oui, c'est pas à toi de. Tu as raison, mais sauf qu'en fait, le sujet aujourd'hui, c'est que ces pompes sont encore utilisées sur des modèles jetables. Donc après, tu as des logiques de modèles économiques et de
rentabilité. Et si on arrête
Parce que
plastique à usage unique, ça va être bientôt interdit. C'est 2040, je crois bien.
Ouais, alors les dates bougent un petit peu, puis c'est par étapes, en fonction, on a commencé effectivement.
Mais tu vois, avec les régulations.
Les couverts, etc. Non, mais ça, on va y arriver. Après, encore une fois, l'enjeu, il est effectivement d'en consommer moins. Donc nous, c'est le parti pris qu'on a pris avec nos éco-recharges, puisqu'aujourd'hui, les éco-recharges nous permettent d'économiser 70% de plastique par rapport à des contenants habituels. Donc on a économisé avec la communauté What Matters près de 8 tonnes de plastique en un peu plus d'un an. Voilà, donc c'est un peu ça le sujet. Nous on est encore à la fois, on est très pragmatique et l'objectif c'est de faire des petits pas tous ensemble. Il y a plein de marques qui ont des modèles différents, il y a plein de très belles marques qui font du solide et tous les gens qui sont au solide, j'ai envie de dire, restez-y, c'est parfait. On se rend quand même compte qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à passer le cap du dentifrice solide, du démaquillant solide, du liquide vaisselle solide. Donc voilà, donc nous, on est.
En fait, finalement... c'est un autre acteur. Vous êtes un éventail d'acteurs différents et chacun plus
chacun
sa solution.
Chacun fait bouger les lignes. Exactement. Un petit peu en fonction du. Voilà, et je pense que notre enjeu, il y a de la place pour tout le monde, économiquement parlant, si je puis me permettre.
Surtout dans le secteur, venez foncer.
Au grand groupe. Et puis voilà, puis après, chacun a ses affinités de marque, heureusement d'esthétique aussi, de marketing, à partir du moment où les gens ont un discours sincère, et je crois que c'est de plus en plus vrai par conviction des entrepreneurs, ça c'est le premier point, par la conviction des gens qui lancent ces nouveaux projets, et puis de toute façon aujourd'hui on est obligé de l'être puisque tout se sait, donc en fait vous n'avez que tout intérêt à raconter au quotidien votre projet, n'étant plus très jeune, même si je ne suis plus très vieux, mais...
C'est pas très vieux quand même.
Non, bien sûr, mais on a vécu un temps en tant qu'entrepreneur où l'idée, il y avait un peu le culte du secret, de je donne pas, je montre pas.
Bon, c'est vrai, ça, maintenant, il y a des...
Aujourd'hui, et nous, on le voit avec des entrepreneurs plus jeunes et qu'on trouve ça formidable et qu'on échange régulièrement, il n'y a plus du tout, on partage des choses, plus trop de logique de confidentialité. Nous, on fait une newsletter le vendredi où on raconte à peu près... d'ailleurs, on a pas mal de concurrents qui sont abonnés et c'est super, où on raconte à peu près tout ce qui se passe dans la boîte toutes les semaines. Je crois pas que l'enjeu, il soit... On n'est pas en train, en tout cas nous, sur notre industrie, de lancer des algorithmes méga confidentiels ou des technologies de haut vol. Donc nous, c'est beaucoup d'une offre de bon sens et de... Voilà.
Et je pose toujours une question, je demande à mes abonnés de te poser, de poser à mon invité une question. J'ai réussi. Hein. Alors, mis à part que les trois quarts me demandaient, il ne peut pas nous en envoyer gratos? J'aurais dit, ce n'est absolument pas une question. Certains se posaient la question du verre. Et ça, c'est une question que beaucoup se posent, qui sont dans l'écologie. Mais quid, en fait, de l'impact du verre? Parce que le poids, tu vois, le poids de la livraison, etc. Puisqu'en plus, tu es en digital, donc il y a la livraison.
C'est sûr.
Voilà. Comment est-ce que tu as calculé l'impact? Qu'est-ce que tu peux... Quel est ton retour d'expérience là-dessus?
Alors aujourd'hui, on en parlait un petit peu quand on a préparé rapidement au café ce moment-là. Tout ça est très compliqué parce qu'effectivement, le cycle de vie total du produit entre l'énergie produite pour faire le verre, le surcoût du verre, etc. Nous, notre parti pris, et encore une fois, on n'est pas parfait, c'était de se dire le verre, on ne le renvoie pas à chaque fois. C'est lors du premier achat, c'est pour... en fait, nous, quand vous achetez un dentifrice ou un gel douche What Matters, c'est comme si vous achetiez un objet de décoration en verre et un produit, quelque part, un petit peu dans votre salle de bain, et ensuite, vous le remplissez avec des éco-recharges. Après, aujourd'hui, pour avoir beaucoup travaillé le sujet de la recyclabilité, etc., je pense que c'est très complexe d'avoir une vision globale de toute la chaîne de valeur. Donc, on y travaille. C'est pas la première chose qu'on a faite parce que ça nécessite pas mal de moyens pour lancer des études. Donc, on va dire, c'est l'objectif, là, notamment de 2022 pour nous, de travailler sur notre cycle de vie total du produit en incluant effectivement tout le côté des cartons, le fait qu'on essaie de limiter les livraisons, le fait qu'effectivement il y ait du verre, mais qui reste dans une salle de bain pendant 2 ans, qui n'est même pas jeté, hein, pour être recyclé. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'hypothèses à prendre en compte, parce que le verre, c'est vrai que pour se faire livrer la question peut se poser de façon plus facile, si, enfin, en tout cas, plus évidente, si vous vous faites livrer, je dis n'importe quoi, un flacon de lait en verre que vous jetez tous les matins. Mmh. Sur lequel, là, vous allez avoir du poids de livraison à l'aller, puis le poids dans du recyclage des déchets. Nous, on part du principe que finalement, c'est un peu un objet qui reste permanent dans votre salle de bain. Alors évidemment, il peut un jour se casser, vous devrez le remplacer, mais notre modèle est que c'est un objet que vous gardez. Mmh. Donc voilà. Après, la conviction première, hein, qu'on a, nous, avec Charlotte, mon associée, c'est que il ne faut pas non plus se chercher des solutions pour légitimer une consommation. La seule solution, c'est de consommer un peu moins et mieux. Bon, une fois qu'on a dit ça, je suis dans la banalité totale. Pour autant, on essaye d'être là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu parlais des pompes. On a mis des pompes aujourd'hui, nous, sur tous nos flacons. Bah, pour se dire, effectivement, on a des bonnes formules qui peut-être coûtent un peu plus cher parce qu'elles sont bio, faites en France. Mais grâce aux pompes, bah, votre enfant, il va en consommer moins. Il va mettre juste une petite louche de dentifrice versus... il faut avoir en tête que c'est une partie, je ne dis pas tous, hein, de l'industrie cosmétique arrange bien tout le monde d'avoir des gros bouchons pour revendre des produits. Donc nous, on essaye un petit peu d'avoir cette démarche responsable à la fois sur le pack avec des pompes, ce qui coûte plus cher, hein, évidemment, de mettre des pompes de qualité sur l'ensemble de vos produits. Parce que c'est dans le soin, par exemple, on en a beaucoup sur les huiles corps, sur des produits assez chers. C'est vrai que...
puis beaucoup sur des produits jetables, finalement. Donc, même toi, ta pompe en plastique, comme normalement, on ne jette pas ton flacon.
Voilà. Donc, en tout cas, on essaye. Voilà, il y a ça. On essaie de faire en sorte. On a une offre de commande récurrente où vous pouvez vous faire livrer sur abonnement vos éco-recharges. Il y a plein de modèles qui existent où finalement vous choisissez la fréquence de votre dentifrice, de votre lessive, de votre gel douche, puis vous recevez un colis le lundi de dentifrice, puis le mardi d'après un colis de lessive. On essaie d'inverser le...
De dire vous recevez tout d'un coup.
Voilà, nous on choisit d'abord une fréquence, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, et en fonction des produits que vous avez achetés, de la composition de votre famille, un petit configurateur, vous avez 2 enfants, vous avez une femme, vous êtes 2 hommes dans le foyer, 2 femmes. On vous calcule la consommation idéale d'éco-recharge et on vous envoie ça en une seule fois, tous les mois, tous les 2 mois. Donc, on essaye petit à petit.
Et en plus, comme ça, tu régules un peu, parce que comme tu calcules, globalement, la personne doit se dire « Ah, donc, j'ai pas besoin de tant que ça, finalement.
Bah, »
il y a aussi le côté
un peu...
Et puis
là, on rentre typiquement dans ce que nous, on considère le gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je prends l'exemple des grandes éco-recharges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, entre une petite éco-recharge et une grande éco-recharge, il se trouve que la grande éco-recharge, elle coûte... plus cher à produire par rapport au liquide, mais finalement, les frais de calage industriel, de faire remplir une grosse éco-recharge ou une petite, c'est à peu près les mêmes. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, au litre, le prix d'une grande éco-recharge d'un litre est moins cher que la dans 150 ml. Donc en fait, là où je parle de gagnant, 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 c'est que c'est gagnant pour le consommateur parce qu'au litre, il paye un peu moins cher, que la grande éco-recharge, finalement, il y a moins de plastique, encore que la petite, parce qu'il y a dans l'éco-recharge, le vrai sujet du plastique, c'est le bouchon notamment. Donc là, vous n'utilisez qu'un bouchon pour une grande éco-recharge d'un litre. Et en plus, vous avez moins de livraison. Donc,
mais du coup, même pourquoi faire des petites éco-recharges? Parce que finalement, c'est des produits qui ne se périment pas. Donc, en fait, on pourrait tous acheter la grosse. Enfin, quand on a besoin d'un gel douche, pourquoi on va s'acheter une petite...
Non, mais c'est une très bonne question. Pour être hyper transparent, quand on a lancé, on avait une logique. On a quand même lancé quasiment 60 références en même temps. Donc, il fallait qu'on démarre par quelque chose. On a voulu aller, en fait, en fonction des besoins de nos clients. C'est-à-dire qu'on avait aussi envie de rester accessible.
C'est une question de prix, en fait.
Il y avait une question d'accessibilité de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arriviez avec uniquement le votre dentifrice plus une énorme éco-recharge, ça rendait finalement notre premier achat un peu cher. Donc ça, c'était le premier élément. Mais le bon exemple est celui des éco-recharges d'un litre sur 3 produits de mémoire, ou même 4. Gel douche, shampoing, gel lavant-main qu'on a lancé en août. Ils ont cannibalisé l'intégralité de nos autres références qu'on va sans doute arrêter prochainement. Donc effectivement... Tu as cette logique de transition. On avait envie d'être une marque où on est le high-sup pas cher pour certains et puis on est le petit luxe pour d'autres. On travaille beaucoup aujourd'hui, on est en discussion avec pas mal de réseaux ou de concept stores autour de la décoration pour rentrer par la décoration qui amène un angle un peu différent on va dire, du réseau de distribution traditionnelle cosmétique, où finalement, je ne vais pas les citer, mais vous avez deux, trois réseaux en France, et puis soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas. Et voilà, donc...
Et c'est quoi tes pistes de développement, tes next steps?
Bah, aujourd'hui...
Et même tes prochains challenges, parce que je pense que tu veux toujours t'améliorer.
Bah, les prochains challenges, c'est qu'aujourd'hui, on continue la croissance, donc on recrute pas mal de profils en ce moment, à la fois sur le digital et sur le retail. Donc ça, pour nous, c'est de structurer la boîte pour grandir, de consolider évidemment notre... aujourd'hui, on a fait 98% de notre chiffre d'affaires, 95% sur notre site, donc c'est continuer un peu dans cet élan-là. C'est évidemment développer des partenariats potentiellement, soit avec des distributeurs online, soit avec des places de marché, mais qui ont soit les mêmes valeurs que nous, soit très qualitatives. On a l'objectif avec Charlotte de construire une marque qui évolue, mais qui est ambitieuse, parce qu'on a quand même beaucoup d'ambition pour cette marque-là, y compris en France, mais aussi à l'international. Mais par contre, de le faire de façon posée et de ne pas renier tout, d'essayer d'être toujours dans ce juste équilibre, modèle économique et impact.
Et j'imagine que si tu es distribué en physique, il y aura moyen d'avoir du vrac.
Alors ça, c'est un autre sujet hyper intéressant sur lequel on travaille. On a eu des demandes de réseaux de vrac, etc. Aujourd'hui, le modèle économique du vrac est pas, alors à la fois d'un point de vue économique et puis d'un point de vue réglementaire, est pas si simple. Notamment, je crois d'ailleurs qu'il y a un projet de loi en ce moment qui complexifie encore plus la vente du vrac, des produits ménagers.
Tout ce qu'on aime.
Voilà. Donc réglementairement, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est plus compliqué réglementairement de vendre du gel douche ou du gel lavement en vrac que finalement de vendre du riz en vrac, de l'alimentaire, ce qui est... Bon, voilà, il y a sans doute un peu de lobbying à faire.
Pourtant, il n'y a pas de mythe alimentaire dans le gel douche en vrac.
Voilà, je vais être honnête, je ne suis pas expert, mais en tout cas, c'est pas simple. C'est clairement pas simple. Et il y a des belles boîtes qui travaillent là-dessus, hein, qui bossent. Je pense à Cozy, qui fait beaucoup de choses là-dessus. Donc, le fondateur est quelqu'un qui est super, qui a plein de convictions et d'ambitions. En tout cas, nous, on trouve que le modèle n'est pas simple. Donc, ça, c'est le premier point. Réglementairement, tout ça n'est pas évident. Le modèle économique... Et pas évident non plus, parce qu'aujourd'hui, si vous respectez scrupuleusement la loi, vous ne pouvez pas remplir un flacon qui est amené par un client, mais vous devez le laver vous-même et lui redonner un flacon. Donc après, on rentre dans l'impact dont on parlait, entre le lavage sur place, la machine, les transports. Voilà, donc ça sera une offre d'avenir.
Complémentaire,
peut-être que si nos clients nous le demandent vraiment dans les points de distribution, un jour on ira. Mais aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas de viabilité vraiment. En tout cas, on a du mal à le voir pour entrer dans ces coûts. Et quand je dis de viabilité économique, évidemment pour l'entreprise, mais donc pour le client, et pas à sortir des prix trop élevés non plus.
Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs, mis à part que tu vas binger l'empreinte juste après pour te rattraper?
Exactement, je vais aller tout écouter d'un coup. Non, j'ai pas de merci de m'avoir accueilli en tout cas, puis de cet échange que je trouve passionnant, parce que c'est... On dit souvent avec Charlotte que l'écologie et la manière d'avoir l'écologie, enfin de voir l'écologie, c'est très personnel, que c'est un petit peu comme la religion, chacun fait ses petits arrangements. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité à asséner aux consommateurs, c'est chacun fait comme il peut avec ses moyens, avec son envie, ses moyens économiques, avec tout. Et puis l'objectif, c'est que tout le monde fasse des petits pas tous les jours et que la responsabilité, elle ne doit pas peser sur les consommateurs, mais sur nous, entrepreneurs.
Et comme tu le disais si bien, il y a encore de la place, il n'y a pas de concurrence. Foncez, ceux qui veulent monter leur boîte dans le secteur du green, de la RSE, de l'impact, enfin tout ce que vous voulez, on a besoin de vous, quoi. Parce que tu le disais, vous êtes tous devenus, pas copains, hein, c'est des concurrents, mais c'est des concurrents...
Non, mais je pense qu'en tout cas, on a tous un objectif commun, je crois, c'est de faire changer les comportements. Voilà, déjà, ça, c'est une bonne chose. On peut pas après ça c'est un avis très personnel.
Et d'accompagner le changement.
Et d'accompagner le changement. On peut pas après 20 ans, 30 ans de modèle de consommation, d'un coup, en 15 jours, dire à tout le monde tu consommes mal, change du tout au tout. Non, là, malheureusement, ça c'est pas si facile. Donc voilà, faut accompagner, faut éduquer. Voilà, donc ce qu'on essaye aussi de faire avec la marque What Matters, d'expliquer. D'expliquer parce que les gens sont quand même beaucoup à l'écoute. C'est l'avantage d'une marque digitale. Hein, on a des territoires d'expression, on a un lien direct avec le consommateur que vous n'avez pas en retail parce que vous ne lui parlez pas finalement. C'est aussi pour ça que nous, on s'est lancé en digital. Par contre, après, on a besoin d'être en retail parce que comme toute DNVB, finalement, on a cette espèce de schizophrénie. On est sur un modèle digital et on fait énormément de livraisons qui est quand même pas le top pour l'écologie. Donc, effectivement, le fait de se retrouver dans des points de retail au plus près du consommateur, c'est aussi un de nos enjeux. Et c'est aussi la demande qu'on a aujourd'hui beaucoup d'être proche de nos consommateurs dans les villes de France.
Oui, je pense que c'est important, si tu veux t'adresser à tout le monde, de toucher ceux aussi qui sont un peu offline.
Exactement.
Merci beaucoup, Franck.
Merci beaucoup, Alice. À bientôt.
À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.